Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent...
Ça y est, puis 21h.
Marie Riche.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
La Convention, considérant l'incontestable supériorité de l'articulation sur les signes pour rendre le sourd muet à la société et lui donner une connaissance plus complète de la langue, déclare que la méthode orale doit être préférée à celle des signes dans l'éducation et l'instruction des sourds muets. Adoptée 160-4. La Convention, considérant que l'usage simultané de l'articulation et des signes a l'inconvénient de nuire à l'articulation, à la lecture labiale et à la précision des idées, déclare que la méthode purement orale doit être préférée. Adoptée 150-16. Voici deux articles tirés du congrès de 1880 à Milan. Cela donne le ton de la manière dont les langues des signes ont longtemps été considérées. Les choses ont bougé, certes, les langues des signes sont peu à peu reconnues, mais comme le rappelle votre film, Norita Vive, pas partout et pas par tous. Bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir Marie.
Votre film s'appelle Signé et il sort en salle mercredi prochain.
Celui qui parle et qu'on ne comprend pas quand on est grec, c'est un barbare qui fait bla bla bla. C'est-à-dire qu'il est non intelligible. Peut-être qu'il ne pense pas vraiment. En tout cas, il ne parle pas vraiment quand il ne parle pas comme vous. En grec, il y avait beaucoup de candidats, mais a posteriori, pour le mot traduire. C'est un verbe latin, hein, traducere, conduire en face ou faire traverser. Bon. En arabe, ça veut dire interpréter. Et en chinois, ben, fanier, ça veut dire retourner un tissu. Échanger. Et retourner un tissu. Et il y a une très belle phrase d'un maître chinois qui dit, voilà, traduire, c'est retourner un tissu, retourner une soie brodée et se rendre compte que la fleur du dessous n'est pas celle du dessus. Donc, vous voyez, c'est même un autre geste technique qui est en clos.
On commence par la voix de Barbara Cassin, qui est une femme chercheuse avec qui vous entretenez une forme de conversation intellectuelle. Norita Vive, depuis un moment, c'est une archive de 2017, où elle revient sur les étymologies, les significations plurielles du mot « traduire ». Peut-être pour se dire que le départ de ce film signé a à voir avec l'exposition qui a eu lieu au MUCEM à Marseille, qui s'appelait « Après Babel, traduire ». Qu'est-ce qu'elle vous propose à ce moment-là, Barbara Cassin ?
Elle m'a dit, tu peux faire une vidéo pour cette exposition avec Manuel Abori. Et on verra ce qu'on va faire. Donc, a priori, qu'Emmanuel traduit quelque chose en langue de signes française de la langue française. Qu'il faut bien différencier que ça n'a rien à voir. La langue française et la langue de signes française, ce n'est pas une traduction du français. Hein. Donc, voilà. Et après... On a réfléchi et on a un peu découvert, on savait un peu qu'il y a vraiment beaucoup de langues de signes. Vraiment, il y a vraiment une multitude de langues de signes. Et du coup, on a fait ces petits films de 8 minutes où Emmanuel signe en 13 mots, en 11 langues de signes différentes. Et bon, que c'est très, bon, c'est très, très joyeux. Et dans le film... le nouveau qui s'appelle Signé, l'autre s'appelle Signé en langue et celui-là s'appelle Signé. Il y a le mot bleu que j'ai gardé. Et bleu, c'est vraiment incroyable parce qu'il est différent dans toutes les langues de signe. Et en plus, on ne comprend même pas pourquoi tel signe pour le mot bleu. J'ai trouvé ça vraiment le plus extraordinaire.
Alors moi j'ai un esprit qui cherche, j'ai quand même trouvé des formes de vibration communes, c'est-à-dire que souvent il y avait quelque chose de la main ou du corps qui vibrait pour signer le mot bleu, mais c'est peut-être juste moi qui ai été chercher des liens entre les langues des signes qui n'existent pas du tout.
Ah peut-être, ils existent. Hein. Bon, je sais que les japonais c'est une sorte de...
Caresse.
Oui, non, oui, caresse ou les caresses. Je me suis dit peut-être que c'est l'acteur No qui met du bleu sur la... comme ça avec les quatre doigts. Et qui fait un mouvement sur la joue, que sais-je.
On entend aussi dans la voix de Barbara Cassin l'importance de ce mot traduire. Alors on peut dire que c'est un endroit où vous vous retrouvez toutes les deux, mais c'est vraiment un endroit presque d'obstination pour vous. Beaucoup de vos films ont à voir avec la question de la traduction, le passage d'une langue à l'autre. Les années passant, est-ce que vous savez ce que vous cherchez là-dedans, Norita Vive?
Toujours la même chose. C'est encore ces variations sur un sujet. Vraiment toujours la même chose. Les langues, les bilinguismes, la transmission, la filiation, la perte. Et je crois que je tourne toujours autour du même. Hein.
Vous tournez toujours, mais vous cherchez encore. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous approchez et d'autres choses qui restent très ouvertes. Dans le cas de la langue des signes, qu'est-ce qui vous paraissait nouveau?
Et déjà, apprendre que, d'abord qu'il y en a beaucoup, comme je viens de dire, et que chacune a cette langue à part entière avec son grammaire, sa syntaxe à elle. Hein. Donc, et comment est-ce qu'on peut traduire d'une langue du signe à une autre, d'une langue du signe à une langue vocale, et dans les deux sens, je trouvais que ça élargit toute la toute notre conception de langage humain, toute notre perception de langage humain. C'est une langue tellement différente. Hein. Et là, les congrès des Milan, c'est comme si ces gens-là étaient hors langage, tandis qu'ils sont hors vocalisation. Peut-être je peux citer Lacan, mais bon.
Ben si, pourquoi pas.
Je vais essayer, hein, mais sinon je vais trouver mon papier. Mais je crois qu'il a dit...
En 83
En 63. Et il y a d'autres voies que la vocalisation pour recevoir le langage. Le langage n'est pas vocalisation. Regardez le sourd. Donc, c'est formidable de se rendre compte de, bon, je crois que c'est une petite phrase. Je crois pas qu'il a dit grand chose d'autre. Moi, j'en sais rien. C'est dire, voilà, le langage, c'est pas la vocalisation. C'est l'instrument. Mais il y a un autre qui sont les mains, le corps, le visage. Et que, il y a même un livre de André Ménard qui s'appelle, Parler avec les mains et entendre avec les yeux. Ou entendre avec les yeux, parler avec les mains. Mais c'est pas seulement les mains, hein, parce qu'on dit toujours que...
Non, mais il y a les mimiques du visage, il y a la manière de positionner son torse, il y a la manière d'agiter ses bras aussi.
C'est ça, mais c'est ça qui est extraordinaire. On dit toujours qu'ils sont très expressifs. Mais c'est qu'on oublie que c'est des expressions codées. C'est-à-dire, il y a des mouvements avec les sourcils qui veut dire un point d'interrogation, par exemple, dans certaines langues. Un mouvement avec les corps en avant pour dire quelque chose, les corps en arrière. C'est-à-dire, tout ça, c'est codé. Nous parlons tous, moi, même ici, je parle avec mes mains. Mais, et c'est certainement codé, mais pas intentionnellement, hein. C'est-à-dire, et là, et voilà, là, c'est une langue qui se passe dans l'espace, qui permet beaucoup, qui permet une simultanéité. Qu'on peut pas avoir quand on parle la langue vocale. Et je crois qu'elle a, elle est différente, elle est vraiment différente. Mais c'est une langue à part entière.
Ce qui m'a frappé dans le film signé, c'est l'omniprésence des écrans, jusqu'à l'affiche d'ailleurs du film, qui montre à quel point c'est une langue qui a une vivacité contemporaine. Toutes les archives que vous les présentez sur des... il y a que la marque qui me vient, mais des iPads ou des téléphones intelligents, des tablettes. Mmh. Vous les présentez sur des tablettes, vous les présentez sur des ordinateurs, sur des téléphones. Et d'un seul coup, la langue se met à circuler d'une manière visuelle comme jamais je l'avais vu. Est-ce que c'est quelque chose que vous
bien
faites...
Bien vu, Marie. Bien
vu, vous Marie. Vous en êtes rendu compte pendant le tournage
non,
ou c'était
vraiment
une intuition
oui, c'était l'intention d'avoir un maximum. Mais parce que, justement, ces moyens ont révolutionné vraiment...
La communication.
La communication et aussi les archives. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, comme c'est une langue qui n'a pas une écriture à elle, on ne pouvait pas trouver des archives. Et là, à partir de maintenant, on peut trouver des archives. Et aussi, vous savez, avant le sourd, il devait habiter proche l'un de l'autre pour information, pour raconter des choses. Bon, ils devaient être proches, parce que sinon, comment ils communiquaient? Et maintenant, c'est tout le temps, ils sont tout le temps sur leur téléphone.
Notamment avec des services de FaceTime où on peut se filmer pendant qu'on signe et regarder l'autre signer, et conversation à l'autre bout du monde.
Et tout le temps, on le voit. C'est-à-dire, ils signent, et même, j'ai vu un jeu de foot, le mari était sourd avec sa femme, ils étaient là en train de se parler, bon, comme au téléphone, mais ils étaient là, tout le monde signait avec les joueurs à la fin du match, c'était vraiment formidable.
Vous êtes allé filmer à un endroit en particulier avant d'aller à Berlin, pourquoi est-ce que vous avez choisi cet endroit en Israël?
Pourquoi j'ai choisi Israël en général?
Non, pour faire ce film-là.
Non, oui, c'est ça. Non. Parce que vraiment, chaque fois, je veux faire un film qui se passe pas là et là-bas. C'est une sorte de laboratoire. Non, mais c'est vrai, chaque fois, ça recommence, même pour d'une langue à l'autre. Hein. Et j'ai pensé, non, je vais le faire en France, en Allemagne. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des langues nouvelles. Et tout de suite, je vais expliquer. Et il y a un laboratoire de langue des signes à Haïfa. Et où il y a deux chercheuses, Wendy Sandler et Irit Meir, et je dois dire vraiment ma grande tristesse qu'elle nous a quittés il y a une semaine, exactement, que bon, j'espère que je vais continuer à parler, et que bon, ces deux chercheuses étaient sur et trois langues de signes nouvelles, et les trois langues de signes, c'est d'une part la langue de signes israélienne, que je vais expliquer tout de suite, et des langues de signes locales.
Très locales.
Ce qu'on appelle des langues de signes émergentes, c'est ces deux. Et que la langue de signes israélienne elle-même, c'est une langue qui est une sorte de mélange de langues de signes que des juifs ont amené avec eux dans les différentes vagues d'immigration, et que ça, c'est cette nouvelle langue, c'est un mélange de ces langues. Et la base est la langue de signes allemande, parce qu'il y avait une école de sourds juifs à Berlin, très connue, où il y avait des juifs et pas juifs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots de la langue de signes allemande dans la langue de signes israélienne.
D'ailleurs, vous racontez une histoire, enfin en tout cas vous filmez une histoire formidable, qui est un homme qui arrive en 1930 en Israël et qui retrouve son professeur de langue des signes en Israël, et qui était un professeur qu'il avait eu
à Berlin. Il faut juste rappeler que la langue des signes était interdite dans l'école, dans le cours, mais, et c'est ça qui est formidable, c'est que la résistance dans les récréations, dans les clubs, des clubs de sport beaucoup, puisque bon, on va pas leur dire de parler en. Donc, elle a résisté. Si les langues des signes ont résisté, là, malgré l'interdiction qui était vraie et à Berlin et à Tel Aviv plus tard, etc., et dans le monde entier, la langue a résisté. C'est vraiment extraordinaire. Donc, je reviens sur les langues. Donc, il y a la langue des signes israélienne qui s'est forgée avec le temps, avec les langues des signes que les Juifs ont amené avec eux, même avec une langue des signes, imaginez-vous, une langue des signes de Juifs,
des Gardaïa,
une petite ville où il y avait
un quartier juif
avec beaucoup de sourds. Et ils ont inventé, comme toujours, quand ils sont isolés, ils inventent une langue qui n'a rien à voir, parce que c'est, je dis, quand isolé, c'est le fait de ne pas être en contact avec une autre langue des signes. Et c'est le cas justement avec les langues des signes dont je parle dans le film. Il y a la langue des signes bédouine de Al Saïd, et il y a la langue des signes de Kafar Kassem, d'où vient une des personnages que j'adore, qui est Miad, qui est palestinienne de ce village. Elle raconte, cette langue de signes locale qui émerge quand il y a beaucoup de sourds dans un endroit. Et là, il y a même dans le film un petit archive de la langue de signes bédouine, où on voit le premier sourd de Al-Saïd. Ça veut dire qu'avant lui, cette langue n'existait pas. Hein.
Donc on en revient à l'origine, et on reviendra là-dessus. Lorsque vous dites, Nourit Aviv, que la langue des signes a résisté, j'entends aussi que c'est la nécessité ou la passion des hommes à communiquer entre eux qui me semble résister. Il me semble que vraiment c'est un film qui parle de ça. C'est tellement fort, les humains ont tellement besoin de communiquer entre eux que même quand c'est très compliqué, ça résiste.
Bien sûr, parce que c'est ça les désirs de la rencontre, de communiquer. Hein. Après, une langue peut aller plus loin parce qu'elle devient poétique, ça c'est à la fin du film. Hein. Mais parce qu'on cherche aussi, pas seulement la communication, aussi la poésie de la langue, le poétique de la langue. Mais oui, c'est et moi je comprends, j'ai du mal à comprendre comment on peut interdire une langue, n'importe laquelle. Ça enrichit notre humanité et je comprends pas comment on peut avoir l'idée d'interdire des langues à des gens qui ont des langues, ça. Bon, je soupçonne, j'ai pas étudié la question, mais il y a un moment que Gal dit, et que c'est une langue très sexy, et très, très sensuelle, et très, très mouvante, et tout ça. Et je crois, je soupçonne que peut-être c'est ça que lui, il trouve aujourd'hui comme étant génial. C'est ça qui l'a attiré. Ce côté visuel de la langue, le côté, on se touche peut-être physique, on se touche plus. Il y a une intimité. J'ai l'impression qu'il y a plus d'intimité parce qu'on se touche, on se regarde. Et du coup, c'est trop sexy. C'est ça que fin 19e, c'était insupportable. Moi, c'est mon hypothèse qu'elle était trop, too much. Il y avait trop de corps. Et ça, fin 19e, on n'en voulait pas.
Possible. Puisque vous parlez de Gal, donc c'est l'un des jeunes hommes qui intervient, on va l'entendre.
Je pense que c'est semi-lingual.
On peut dire que ma grand-mère est semi-lingue. Elle n'a de profondeur dans aucune langue. Ni en hébreu parlé, ni en langue des signes. Elle est entre les deux. C'est lié au fait que pendant toute son enfance, avec sa mère et aussi à l'école, on a insisté pour qu'elle parle. Elle devait s'entraîner à parler l'hébreu comme il faut. Ce n'est que plus tard, avec ses amis et au centre pour sourds, qu'elle a appris la langue des signes. La langue des signes israélienne, l'ISL, est une langue très jeune. C'est un mélange de plusieurs langues d'immigrés. C'est un mixte de langues des signes allemandes, avec l'algérienne, la marocaine, toutes mélangées. La langue des signes aujourd'hui se partage en deux langues. Il y a ce que l'on appelle la langue signée, l'hébreu signé, celle par laquelle je signe et parle en même temps. Mais la vraie langue des signes, celle que les sourds appellent fa, c'est la langue native, la langue authentique, avec des règles, une grammaire et une syntaxe propre. Par exemple, je peux dire en hébreu signé, je vais à la maison. Mais en langue des signes, je signe comme ça. Je vais, disparaît et arrive à la maison. Une phrase entière se réduit à un seul signe. Il y a d'autres exemples. Je crois qu'à l'époque, même la langue fa était considérée comme une langue écorchée, corrompue. Encore aujourd'hui, dans certaines écoles, on considère le fa comme un hébreu écorché ou corrompu.
Et on entend la voix de Gal, ce jeune homme que traduisait à l'instant Romain de Bec de Lièvre, traduire encore en français. Nourrit à vif, c'est un extrait de votre film signé. Gal, il exprime face caméra sa passion pour cette langue. Vraiment, c'est un homme qui, pendant tout le film, est une forme de passeur, justement, amoureux de la langue des signes et des langues des signes. Une passion dont il hérite de qui, Nourrit à vif ?
De sa grand-mère Aviva, qui, elle, justement, c'est extraordinaire, hein, c'est la grand-mère Aviva qui, elle, comme dans les écoles, l'école à Tel Aviv, comme l'école à Berlin, la langue des signes était interdite, mais en rentrant avec sa copine à la maison, elles ont signé, et après dans le club, le nouveau club qui n'existait pas, ils ont signé, et elle apprend la langue des signes tardivement. Donc lui, il prétend que, en fait, ce qui fait qu'elle n'a pas parlé très très bien la langue des signes, et elle n'a pas parlé très très bien la langue orale. Hein. bien que dans le film, maintenant j'arrive à la comprendre quand elle parle, quand elle oralise, comme on dit. Mais la langue des signes, maintenant je le vois, c'est ça qu'il dit. Il dit la langue signée, le français signé par exemple, ou la langue des signes française. Les français signés, c'est le français qu'on accompagne avec le mot, les signes, hein, c'est le français accompagné des signes. Mais ça garde la syntaxe du français, tandis que la langue des signes a une grammaire complètement différente. Et il donne l'exemple, il fait comme un zoom là, un zoom, il montre, c'est-à-dire que je vais, c'est-à-dire qu'on le voit grand, et lentement, lentement, il disparaît, c'est ça le signe, comme un zoom, hein, comme une sorte de zoom arrière ou un zoom avant. Hein.
Pour dire, je vais à la maison.
Je vais à la maison qui est loin et je disparais, c'est bon. Et comme c'est une langue dans l'espace, elle est très, très, très imagée, et il doit pas... Tandis que s'il parle dans la langue des signes signée,
du mot à mot, il dit
il
je,
va dire ouais. J'ai ça, il peut faire. Donc ça montre la différence entre ces deux niveaux de langue. Hein.
Et Egal, il est aussi à un endroit de votre travail artistique et intellectuel, Nourrit à vivre, qui est celui de la transmission. Alors qu'il s'agisse des films que vous avez faits sur la circoncision ou sur la traduction, sur la langue maternelle d'une langue à l'autre, il est toujours question de cela. Qu'est-ce qui circule d'une génération à l'autre ou d'une génération sur deux ou sur trois? Parce que Gal, bon, il n'avait pas une nécessité de parler la langue des signes, puisqu'il il pouvait tout à fait vocaliser, mais il a traîné le vendredi et le samedi soir dans un salon. Comment est-ce que vous êtes allé chercher justement cet endroit où, je ne sais pas, vous lui avez posé des questions pour qu'il vous raconte les soirées qu'il passait enfant et comment il a appris la langue?
Bon, c'est beaucoup de questions.
Trop de questions.
Non, mais c'est formidable parce que je vais essayer. Déjà, Gal, je l'ai rencontré à Berlin. C'est lui qui a traduit Miad, la palestinienne sourde, qui est mariée avec un sourd allemand. Donc, il fallait. J'avais deux traducteurs, hein. Un de la langue des signes allemande, un de la langue des signes israélienne. Parce que la palestinienne signe en langue des signes israélienne, parce que c'est dans cette langue-là qu'on va à l'école. Hein. Évidemment, l'autre, elle est trop petite pour faire tous les cursus. Hein. Donc voilà, alors c'est comme ça que j'ai rencontré Gal, qui m'a raconté sa grand-mère.
Aviva Cohen.
Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, qu'Aviva Cohen n'a pas parlé à ses enfants, elle, dans la langue des signes. Pourquoi? Parce que sa mère, à elle... lui a interdit de parler à sa fille en disant « bon, ils vont pas pouvoir parler hein. ». Tout de suite, on va parler que c'est pas vrai, cette histoire de tout. Et ça saute une génération, comme on voit beaucoup. Et c'est le petit-fils qui va être tombé amoureux de cette langue. Mais ce qui est intéressant, que Gal, il dit « oui, j'ai traîné mon oreille de l'autre pièce ». Qu'est-ce que j'ai pas vu? J'ai écouté. C'est-à-dire que lui, il était fasciné, pas seulement par les signes, par les voix. Il était par les voix qui sort le sourd quand il signe. Hein. Et lui, il trouvait ça formidable. Il était vraiment fasciné. Et dans cette fascination-là, dans ces désirs-là, voilà, ça sort une génération et on retrouve la langue des signes de laquelle il est amoureux. En plus, il signe très, très joliment. Il est acteur à Berlin. Et il utilise beaucoup dans... Il fait de pièces à lui. Il utilise beaucoup la langue des signes dans ses performances. Hein. Je le trouve extraordinaire. Je trouve que ce qu'il a dit était tellement joli. Il a tout ramassé. Hein.
Il y a un autre personnage qui est Debbie et qui vous permet aussi de questionner la transmission d'une autre manière. Pourquoi, là aussi, les générations entrent en jeu? De quelle manière avec cette femme-là, Nourrit à vivre?
Debbie, elle travaille dans ses laboratoires de langue des signes. Elle est assistante de recherche. Elle est sourde. Et elle, sa mère à elle, elle est mariée à un sourd, sa mère à elle est sourde, donc la langue des signes est sa langue maternelle à elle. Mais elle a... Bon, je dois juste...
Boire. Mm-hmm.
C'est les signes de boire. Et elle a des enfants entendants avec qui... Et elle et son mari ont parlé depuis le début en langue des signes. Donc, ces enfants entendants ont comme langue maternelle la langue des signes et ils sont complètement bilingues. Langue des signes israélienne, hébreu. Hein. Ils sont complètement bilingues, ils passent de l'une à l'autre. Et
vous montrez une archive, en tout cas vous mettez en scène le couple mère-fille regardant une archive sur écran qui est un petit film où la toute petite fille, donc elle a à peine quelques mois, est en train, ou peut-être un an et demi, deux ans, elle est en train de signer à partir d'images auprès de son père, et dont on sent vraiment que c'est l'avènement du langage, mais par le corps.
C'est ça.
Hein, pomme, elle signe pomme, elle regarde une pomme, elle signe pomme, voiture. Et c'est vraiment comme si vous alliez... C'est comme si on découvrait une nouvelle origine du langage. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment cet effet-là.
Parce que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il paraît qu'ils savent signer avant qu'ils savent parler. Hein.
Et le premier signe est à 10 mois. Pour
la mère,
petite fille.
Oui, la petite fille. Et pas n'importe quel signe. Hein. C'est le signe « les ». Bon, le signe « les », il est comme ça. C'est
donc... Pour donner la description, c'est les points qui traient les pieds de la vache. Voilà.
Oui.
Mais sauf que la petite fille, elle ne peut pas le faire très bien.
Elle le fait dans un enfant de bébé. C'est-à-dire en langue des signes, on ne signe pas précis, comme le bébé qui ne parle pas précis. Mais ce qui est intéressant vraiment, c'est que pour elle, elle n'a pas vu de vache. Je veux dire, il n'y a pas du tout l'image. Ça, c'est un signe pur. Hein.
C'est l'abstraction du signe.
C'est l'abstraction du signe, de toute manière. Et après, elle va faire plus ou moins, mais c'est les signes. Et ça n'a rien à voir avec la vache pour elle. Et peut-être ça. Peut-être elle va découvrir plus tard, mais c'est comme l'origine des lettres. Par exemple, les lettres de l'alphabet hébraïque, ils ont tous deux noms. Hein. Aleph, c'est le taureau, Beth, c'est la maison, Gimel, c'est les chameaux. Donc les langues avaient peut-être avant... Après, ça devient de plus en plus abstrait. Mais là, je vois déjà les processus de l'abstraction du signe devant nos yeux. Hein, parce que la petite, c'est pas
elle
iconique.
Ne représente pas. Elle n'est pas en train de représenter le lait. Elle signe abstraitement.
Elle est. On lui transmet le signe en tant que signe du mot lait. Hein.
Vous faites parler Debbie devant sa propre mère de la manière dont elle a appris la langue des signes et aussi de la manière dont elle vivait à la maison. Et je trouve très beau la joie avec laquelle elle dit tout se passait bien. Tout le monde se comprenait à la maison. Pourquoi est-ce que vous avez gardé ça au montage?
Et parce que la mère se sent comme la mère a appris la langue tardivement, comme la mère, la grand-mère de Gal. Elle a l'impression qu'elle ne parle pas très bien, et puis elle ne sait pas, comme sa fille peut parler, elle peut oraliser, hein. Donc elle ne sait pas oraliser, la mère. Donc elle se sentait un peu, mais la fille lui dit, mais non, c'était très très bien, on a pu tout dire, c'est-à-dire on avait les signes et on a pu tout dire, donc il n'y avait aucun problème. Et la mère, elle est tellement contente, elle est tellement fière, elle regarde un moment la caméra, regardez comment la fille, et la calme, elle dit, mais c'était très bien à la maison, on a pu tout se dire. Elle va même plus loin, elle a dit que quand elle apprend à lire, elle comprend, elle fait tout de suite la liaison.
Et avec ça, les mots écrits, ça, c'est très beau.
Les mots écrits. Ouais. Et ça, c'est un témoignage extraordinaire de dire, moi, quand on apprenait à lire, je comprenais les mots parce qu'ils correspondaient aux signes de la maison. Donc, quand on dit, ils ont du mal, etc. Si un enfant, si depuis le début, les parents parlent à un enfant en langue des signes, il n'y a pas de problème, il va rentrer dans l'autre langue aussi facilement s'il rentre dans le langage des débuts. Hein. Cette histoire d'interdire, c'est incroyable. Bon, il n'y a que 5% de sourds qui ont des parents sourds. Donc, mais moi, je ne sais pas, pour moi, c'est évident. Né un enfant sourd, on peut dire aux parents, vous apprenez avec l'enfant la langue des signes, c'est dans cela qu'il peut communiquer naturellement, et c'est très joyeux, c'est un jeu, c'est formidable. Et après, vous inquiétez pas, il paraît que quand on apprend la langue des signes au début, après, on rentre beaucoup plus facilement à la langue orale. D'ailleurs, Dolto l'a dit, mais pour moi, ça me paraît évident que ça se passe comme ça, en plus c'est joyeux. Et ce qui est intéressant, que j'ai toujours vu quand ils sont entre eux, ils sont super joyeux, et ceux qui sont handicapés, c'est plutôt nous, qui ne savons pas parler la langue. Hein. Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti.
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo.
Je crois que chaque langue, c'est une façon différente de sentir l'univers, de sentir le monde. Et peut-être qu'il n'y a pas de synonyme. Je ne suis pas même sûr. Par exemple, si j'ai dit lune en français, si j'ai dit moon en anglais, ou si j'ai dit lune en espagnol, ce sont peut-être totalement différents, parce que ce sont des connotations poétiques différentes. Si j'ai dit lune en français, eh bien, c'est la lune de Verlaine, par exemple. Et si j'ai dit lune en espagnol, cela correspond à notre poésie, à notre tradition littéraire. Puis moon en anglais, il y a une lenteur là que l'on ne trouve pas dans les autres mots. Oui, dans les mots français, oui. Lune, moon, ça va. Tandis que si j'ai dit par exemple en ancien anglais mona, cela n'a pas cette lenteur. C'est différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté pour les traductions. C'est que chaque langue est une façon de sentir le monde. C'est pour cela qu'il y a des mots dans chaque langue qu'on ne retrouve pas dans les autres. La langue, c'est le fait d'organiser la réalité, non? Vous y placez des verbes, des substantifs, des adjectifs, des prépositions, des pronoms. Et tout cela ne correspond pas à la réalité.
La langue, ça ne correspond pas à la réalité, ça l'organise. Qu'est-ce que vous avez noté sur le papier en entendant cette archive de Borges, Norita Vive?
Parce que en deux langues.
Vous m'avez
regardez,
piqué mon style.
Oui, regardez, en deux langues, tout de suite, hein, l'hébreu et le français en même temps. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit les mots années. Et dans le film, justement, hein, la chercheuse Irit Meir, la regrettée, et elle parle de un signe dans deux langues émergente, locale, une la langue de signes de ce village palestinien, l'autre le village bédouin, qui disent tous les deux le mot année, ça dit la moisson. Hein? Donc ils ont cherché un mot pour désigner un concept qui est abstrait, l'année. Les deux ont pris la moisson, sauf que ça c'est ce qui ressemble. Mais comme la moisson ne se faisait pas pareil, les signes sont différents. Les uns les faisaient à la main et les autres avec une machine. Donc ça ressemble, hein, mais ça, c'est pas les mêmes parce que ça n'était pas fait pareil. Donc c'est extraordinaire. Et ces deux endroits, ces deux langues de signes, à peu près à la même époque, les années 30 de siècle dernier, ils inventent la même chose et différemment.
C'est ça, ils font ce choix de correspondance abstraite, de pouvoir signifier la question de l'année par la moisson, la récurrence de la moisson, mais en revanche, comme ils ne signent pas moisson d'une manière similaire, le mot année ou l'idée année ne se retrouve pas signé de la même façon.
Parce que la moisson ne se fait pas pareil, donc ils ne peuvent pas signer la même chose. Hein. Donc on voit comment c'est lié à la culture et comment en même temps, ils ont choisi le même signe pour dire l'année. C'est extraordinaire.
Vous faites référence au mot année, c'est un pur hasard, mais moi je me souviens d'une conversation, je crois que c'est dans un des colloques que vous filmez autour de la langue de Kafar Kassem, mm-hmm. Et je crois qu'il y a un homme qui dit « ça me fait plaisir, ça m'émeut d'être en contact avec la langue d'autrefois ». Parce qu'il voit des personnes âgées, mm-hmm. très âgées, des mm-hmm. femmes et des mm-hmm. hommes, signer. Donc ça veut dire aussi que dans une même langue, il y a une forme comme nous, c'est, je ne sais pas si on entendait un vieux patois ou une version âgée du français, quoi. Ce serait cet ordre-là.
C'est-à-dire que le vieux, il parle la langue des signes de Kafar Kassem. Et c'est Daniel, le mari de Miad, qui est là. On sait pas comment ils se parlent entre eux déjà, parce que l'un c'est la langue des signes allemande et l'autre c'est la
langue. Donc c'est le couple qui vit à Berlin, elle qui signe en langue israélienne des signes, et lui qui signe en langue
des signes allemande. Allemande, hein. Mais il est dans son village là, et il trouve le vieux, et il dit ah de autrefois. Il exagère parce que la langue est encore vivante, hein, et on communique encore beaucoup, surtout les vieux, mais elle est encore vivante. Non, mais lui c'est déjà la langue d'autrefois. Mais il communique, ils se comprennent. Bon, on ne sait pas s'ils se comprennent. On croit qu'ils se comprennent. Et ça, c'est toujours vraiment la question. Comment les gens de langue de signes est différente? Quand j'ai demandé aux chercheurs, expliquez-moi pourquoi les gens de langue de signes est différente, se comprennent entre eux. Ils parlent plus facilement, plus vite, hein, plus vite. Donc, déjà, ils m'ont dit, bon, attention, ça dépend de quel niveau de langue ils se parlent et de quoi ils se parlent, hein. Alors, est-ce que quelqu'un sourd français, quand il va arriver en Chine, est-ce que il va pouvoir, quand deux Chinois parlent en langue des signes chinoise, est-ce qu'il comprend? Si on lui parle direct, on va descendre, comme toujours, le niveau de langue, hein. Mais, ce qu'on m'a dit, c'est que comme c'est des langues qui se trouvent qui sont dans l'espace, ce qui ressemble, c'est la structure, c'est la grammaire, c'est pas tellement le vocabulaire. C'est contrairement à ce qu'on aurait cru, c'est pas au niveau du vocabulaire, c'est au niveau du système de la langue, au niveau de la structure de la langue. Et du coup, plus vite, on arrive à accorder le violon entre les langues de signes différentes. Et là, ça se voit entre Daniel, langue de signes allemande, et langue de signes de Kafar Kassem.
Comprendre ou ne pas comprendre, pendant le tournage, la plupart du temps, lorsqu'il s'agit de personnes qui signent, vous ne comprenez pas Norita Vive, parce que vous ne souhaitez pas que quelqu'un soit en train de vocaliser et traduire dans une langue orale la personne qui est en train de signer. Donc vous filmez des gens et vous ne savez pas du tout ce qu'ils disent.
Oui, alors, d'abord pour dire pourquoi, parce que je ne voulais pas qu'on n'entende qu'une voix, parce que s'il aurait traduit pour moi, on aurait entendu... il aurait remplacé la voix. Je voulais pas qu'on remplace par la voix. Donc, ça se voit dans le film, hein. C'est-à-dire que, on a tourné et après, on a pris ce qu'on a tourné, on a mis sur l'ordinateur et Gal, par exemple là, dans le film, Gal traduit ce que Debbie et sa mère venaient de dire.
Et ça donne pour nous des sous-titres.
Oui, ça donne pour nous les sous-titres. Sur lesquels on a travaillé beaucoup plus longtemps que pour monter le film entier, hein. Donc,
Et ça donne pour nous des séquences qui sont quasi silencieuses, pas complètement, puisqu'il y a des petits moments de vocalisation, des bruits, mais la plupart du temps, en tout cas, on n'a pas exactement les mêmes sensations que quand les personnes oralisent et vocalisent. Quelles sensations?
Que je voulais garder.
Mais justement, quelles sensations ça a été pendant tout ce tournage, vous qui, depuis des années quand même, Norita Vive, filmez tellement de personnes en train de parler. Vos films, il y a beaucoup de personnes qui parlent, on est d'accord. Oui. Et là, ils parlent aussi, ils et elles parlent aussi, mais vous ouvrez un film quasiment dans un presque silence.
Oui, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est ça que je voulais vraiment transmettre, ce sort de silence, mais qui avec des petits bruits que j'adore. Un jour, je voudrais faire un opéra avec ces petits bruits, à partir de ces petits bruits, hein, qui sortent quand même. Mais vous savez, j'ai beaucoup tourné en tant que chef opérateur dans les pays étrangers et j'ai appris vraiment à écouter autrement, à écouter, à voir vraiment au niveau des visages. Ça oblige de vraiment écouter autrement déjà avant en tant que camerawoman et quand dans des pays où je comprenais pas. Et curieusement, je sentais toujours, je suis arrivée à quel moment c'est des moments forts et qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression et que ça m'a obligée d'écouter autrement déjà avant, hein. Et là, j'ai retrouvé un peu ça parce que bon, quelque chose d'autre passe quand même, hein.
Et justement, est-ce qu'on peut parler de... Qu'est-ce qu'on comprend? Parce que, en effet, peut-être qu'on peut imaginer que pendant que vous filmez cette mère et sa fille, ou la grand-mère et son petit-fils, ou encore même d'autres personnages de votre film, on sent que la caméra, elle n'est pas extérieure à ce qui se passe. Mais alors, il se passe quoi pour vous à ce moment-là?
Bon, il faut quand même dire que les choses sont préparées à l'avance, hein. Donc, je suis pas complètement
ignorante de ce qui va se dire.
Qui va se dire. hein, je sais à peu près. Et puis bon, en cours de route, on attrape quelqu'un. On est un peu comme Champollion, hein. On attrape quelques signes et on dit, ah, c'est le même signe qui était là avant. Et en cours de route, on attrape quand même la langue, hein. C'est pas qu'on sait pas du tout, mais dans les détails, c'est Gal qui m'avait traduit après coup. Et après, bon, oui, c'est ça. Donc, parfois, on a répété la même chose si je voulais autre chose, etc. Comme je fais d'habitude, c'était pas tellement différent. Et aussi, ce qui est différent, il y a plus de dialogues dans ce film que d'habitude, où il y a des monologues. Hein, donc, ça, c'est, oui. Et je pouvais faire confiance vraiment à mes personnages. Et celle qui était la plus grande surprise, qui a pris les choses vraiment en main. Et c'est la petite Hagar qui a 9 ans, je crois, je ne sais pas quel âge elle a. Et elle a tout compris, je pouvais savoir, c'était ma... Je sais que c'était elle qui était le go-between, c'est-à-dire la passeuse, hein, la petite. Et ça, je ne la connaissais pas avant.
C'était... Vous dites que la langue des signes, c'est une manière d'élargir et de renouveler notre rapport à toutes les langues et au fait de communiquer. Et si ça vous a permis d'aller plus loin dans le fait d'écouter autrement les autres, ça vous a appris quoi ? Comment est-ce que vous écoutez mieux ou différemment maintenant ?
C'est vraiment une sorte de... J'ai l'impression que je me suis enrichie de monde entier, vraiment. Imaginez, il y a beaucoup de langues et les gens les parlent. Et c'est tout un rapport différent. Et on voit les rapports qui sont... Il y a quelque chose dans leur relation. Il y a une sensibilité autre que le sourd développe, hein, qui est fantastique, de laquelle que j'ai envie de me rapprocher, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, qui m'a complètement intriguée, m'a bouleversée, m'a émerveillée. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un monde entier, imaginez-vous, un monde entier qui s'ouvre, pas avec une, avec beaucoup, parce que j'ai voyagé de l'une à l'autre. Hein, et puis, vous savez, pour Emmanuel, on a demandé à des gens dans le monde de nous envoyer de selfies.
Oui, il y a des petites vidéos en face caméra ou en face téléphone, où il y a des témoignages de partout dans le monde, plutôt des jeunes gens qui disent pourquoi...
La liste que j'ai demandé, la liste pour Emmanuel que j'ai demandé. Et par exemple, une amie, Misako, japonaise, enseignante de français, et elle a demandé à un collègue à elle, japonais, sourd, professeur d'architecture, qui enseigne en langue des signes avec un interprète, mais elle est allée le voir pour faire pour moi ces petits films pour Emmanuel, pour signer le mot en langue des signes japonaise.
Ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé, c'était les langages. Moi, je suis toujours parti au fond du problème du langage. Sauf que ce que je voulais, c'était poser les problèmes du langage d'une toute autre façon. C'est-à-dire, le langage, pour moi, ce n'était pas telle ou telle proposition déterminée. Ce n'était pas ce qu'on peut dire dans le langage, par le langage, c'est les faits mêmes qu'il y ait du langage. Ça, c'était la chose qui m'est frappée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait du langage ? Ça me semblait un problème d'une importance énorme, c'est-à-dire prendre conscience de ces faits-là. Je sais pas, une chose qui m'avait toujours frappé à l'époque, c'était que, au fond, ben on sait très bien, vous savez, que si un enfant n'est pas exposé au discours, au langage, avant les 11e année de sa vie, il perd la faculté d'acquérir le langage. Une chose qui m'avait frappé, c'est pourquoi personne, même pas dans les dictatures les plus méchantes, les plus terribles qu'il y a eu, personne n'a jamais eu l'idée d'éliminer les langages. C'est très faisable. Si vous y pensez, il suffit de faire un projet comme quoi on n'expose plus les enfants au langage et l'humanité va être libérée du langage. On va voir... Une humanité sans langage, c'est très facile parce qu'il suffit de cela. Or, même pas les nazis n'ont jamais pensé, par exemple, à cela. Pour les juifs, par exemple, non ? Les éliminer en tant qu'êtres parlants. C'est-à-dire que quand même, et donc dans l'existence même du langage, il y avait quelque chose d'essentiel, auquel, sans même y penser, l'humanité n'a jamais voulu renoncer à mettre en question.
Quelle drôle d'idée, dites-vous, Norita Vive, en écoutant Giorgio Agamben, qui fait l'hypothèse que personne n'a jamais eu l'idée de supprimer le langage, de supprimer la qualité d'être parlant. Or, si, on peut considérer que dans une partie du projet nazi, la question de la langue et de la langue parlée par les Juifs est complètement visée.
Non. Ils l'ont bien réussi quand même. Il y avait, je ne sais pas, 11 millions de parlants yiddish, la langue, bon, bref. Mais.
Je ne suis pas sûre qu'il faille tellement dire bref, Norita oui. Vive, parce que il se trouve que votre film est tourné en Israël et que la question, quand même, de la langue portée par les Juifs ayant migré vers Israël est une question qui se pose de manière un peu singulière.
Oui, j'ai fait plusieurs films là-dessus. Et bon, il y avait, vous savez, plusieurs fois les projets qu'on a mis des enfants. Et je me demande, même si les nazis l'ont pas fait, à mettre des bébés et en leur interdisant de parler, voir quelle langue. Ça a été plusieurs fois dans l'histoire essayé. Quelle langue ils vont parler si on leur parle pas du tout. Bon, il se trouve qu'ils sont morts. Hein. Et moi, ce que j'ai pensé, justement, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien lui montrer mon film à Agamben. Et ce qui m'a étonné, que, bon, la langue des signes, on sait qu'elle existe depuis toujours. Et puis, je connais pas de philosophes qui se sont penchés sur la question. Et j'étais vraiment presque sidérée. Et même Derrida, que j'aime beaucoup, qui a fait toute la critique de phonocentrisme. D'accord, c'est pour arriver à l'écriture, etc. Mais il fait la critique de phonocentrisme. À aucun moment, il s'intéressait à ces gens qui sont pas, qui ont un langage, qui ont des langues, qui sont pas phonétiques. Si Derrida vivait, je serais allé les voir, je les connaissais bien et j'étais un peu sidérée. Et là, je me dis, tiens, je vais aller voir Agamben. Qu'est-ce qu'il en dit de la langue des signes? Des langues des signes, au pluriel.
Vous avez trouvé des chercheuses qui travaillent sur ces langues au présent, sur ces langues émergentes, sur ces langues qui se parlent aujourd'hui. Mais alors, peut-être le fait de n'avoir pas rencontré dans vos lectures des philosophes ou autres s'intéressant directement à ces langues des signes, ça vous a fait faire peut-être l'hypothèse selon laquelle il fallait ne pas appliquer aux langues des signes les mêmes pensées ou les mêmes philosophies que d'autres langues et qu'il fallait peut-être être ailleurs.
Oui, mais c'est justement Wendy Sandler qui en parle. Et elle dit qu'au départ, elle a utilisé tout le matériel linguistique qui était à sa disposition. Peut-être notamment Chomsky, mais je rentre pas dans les détails. Je sais pas exactement quelle est ça aujourd'hui son attitude, mais c'est-à-dire qu'elle devait laisser ça de côté parce qu'elle a vu que c'était pas opérant tout ce qu'elle a eu comme bagage linguistique, et elle a décidé d'aller par un autre biais, par observer le corps, et justement. Dans les langues de signes émergentes, parce qu'elle pouvait, elle a eu l'archive de les plus vieux signants et puis les générations d'après.
On a étudié de jeunes langues des signes en Israël, celle d'Al Saïd, celle de Kafar Kassem, et aussi le langage des signes israélien qui est une autre langue des signes. Et mon approche a été d'observer le corps, de voir ce que le corps fait. C'est ça qui m'a attiré vers la langue des signes. Tous mes travaux jusque-là se sont longtemps fondés sur les théories linguistiques issues des langues parlées. Aussi, en étudiant la jeune langue bédouine d'Al Saïd, j'ai décidé de mettre ça de côté et de prendre le corps comme clé de lecture. Du développement de la langue. J'ai observé différentes générations de signeurs et ce que leur corps faisait. J'ai vu qu'à la première génération, le plus ancien signeur, l'un des quatre premiers signeurs du village, n'utilisait que ses mains. Ses phrases étaient courtes et très simples. Le message était complexe, mais les phrases étaient courtes. Il n'utilisait que ses mains, pas son visage ni son corps. À chaque génération, une autre partie du corps s'ajoutait. Et avec ça, plus de complexité. À la troisième génération, j'avais des phrases complexes, comme le conditionnel. Le signeur utilisait l'expression et la position de main et du corps pour la partie « si » de la phrase et une autre position pour la partie « alors ». Les différentes parties du corps ont servi à transmettre une information plus complexe. D'autres jeunes langues des signes ont montré des similitudes. Chez les générations plus jeunes, les corps étaient plus habiles, leur permettant de signer plus rapidement. Le message était donc plus complexe. Donc observer le corps a été un indice important sur la façon dont émerge une langue.
A rose that seek the invisible worm that flies in the The howling storm has found out thy bed of crimson joy. In his dark secret left a starlight.
On entendait à l'instant, traduite, encore une fois, par Romain de Bec-de-Lièvre, une des chercheuses que vous avez interviewée pour le film signé, Nourita Vive. Et on sent combien la fin de votre film s'éloigne presque de la pure communication langagière pour aller vers l'expression artistique à partir de cette langue des signes, parce que vous suivez qui ? Ce sont des jeunes comédiens qui clôturent le film ?
Oui, en fait, ça fait partie de la recherche de laboratoire de langue des signes. Ça fait partie de leur recherche. Ils ont eu une certaine somme d'argent par la communauté européenne, très grande même, et que c'est formidable qu'ils ont décidé de faire aussi les théâtres, laboratoire théâtre. Et là, il y a vraiment une recherche de la langue poétique. Et qu'on s'éloigne des signes conventionnels, et on essaye, et les jeux de mots, ils se font à l'intérieur de la langue des signes elle-même et les associations d'idées, ils sont dans les signes, hein, dans leur ressemblance de signes, dans, en les élargissant, en répétant, en les signant pas au bon endroit. Et bon, c'est extraordinaire parce qu'il y a...
C'est la poésie, en fait.
C'est une recherche, c'est la recherche de la poésie, oui. Et ça montre que, bon, comme toute langue, et comme dans toute langue, c'est ça qui m'intéresse, finalement, pas que la communication, mais aussi le désir d'aller plus loin, d'aller au bord, aux frontières de la langue elle-même.
Et ça se traduit par exemple par une image merveilleuse d'un comédien qui étire un signe près de sa bouche, qui le ralentit. On sent vraiment que la langue, elle devient quasiment une expression dansée, en fait.
Oui, oui, c'est complètement, mais c'est une langue au départ, c'est une langue dansée, c'est au départ, c'est une langue complètement de dans l'espace, et dans, c'est comme des danses. Et quand il signe, c'est formidable. Là, il passe d'une sorte de masque vers, du masque vers un mot, hein. C'est ça qui était, c'était un exercice qu'on leur donnait. Donc, il fait le masque et il va lentement sur le signe, lequel? Inquiet, hein.
C'est quel signe?
Inquiet. Inquiet.
Ah. Vous avez complètement appris à parler la langue des signes pendant ce tournage, Novita
Vie. Il ne faut pas exagérer. Parler, non, mais comprendre, pas mal. Comprendre.
Donc si vous deviez dire, par exemple, là, bonsoir à tous les gens qui vous écoutent.
Mais faites pas les... Ben, ça dépend dans quelle langue des signes.
Celle que vous voulez.
Dans quelle langue des signes. Bon, je ne vais pas l'inventer là. Hein.
Non, vous ne voulez pas dire bonsoir à tous les gens qui nous écoutent dans une langue des signes.
Dans une langue des signes.
Celle que vous voulez. C'était quelle langue des signes ?
Israélienne.
Merci beaucoup, Norita Vie. Votre film s'appelle Signé. Il sera donc au cinéma mercredi prochain en salle. Et comme à votre habitude, eh bien, vous proposez des discussions, des rencontres au Cinéma Les Trois Luxembourg à Paris. On peut dire que le mercredi 7 mars à 21h, ce sera une projection en compagnie d'Emmanuel Laborie. Le 8 mars, en compagnie de Tiffen Samoyo. Le 11 mars, avec Batia Baum et Tal Ever Chibovski. Le 13 mars, André Ménard. Puis Catherine Cocchio, Barbara Cassin, Jacques Laborie, Chantal Clouard, etc. On mettra toutes les rencontres sur le site internet de l'émission.
Winter is gone and the leaves are green. Winter is gone and the leaves turn green. You're an innocent fairy.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait rire?
Vous.
Ah bon? Toujours.
Toujours.
Ok. Et par les temps qui courent, où se cacher?
Sous la table. Ici.
Et par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous manque?
Le manque.
Par les temps qui courent, on se retrouve à 21h lundi sur France Culture et quand vous voulez, n'importe quel jour, n'importe quelle heure sur franceculture.fr ou en podcast, il suffit de s'abonner. Au son ce soir, c'était Claude Niort à la réalisation, Lise-Marie Barré, Corinne Amar, Jeanne Aléos, Romain de Bec-de-Lièvre m'aident à penser cette émission, mais tous ensemble. Quant à moi, je réponds @MarieRiche sur Twitter.
An innocent man. This day will be hung. Come on, my love, and see me die. Come on, my love, and see me die. See me dancing. Dancing neath the sky, neath those gallows high. Come on and see me die. Winter is gone and the leaves are green. Winter is gone and the leaves are green. Your innocent face, I wish I never had seen.